Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue en Guadeloupe pour cette édition spéciale de la librairie francophone. Nous sommes à Pointe-à-Pitre, au 5e congrès des écrivains de la Caraïbe, au Mémorial Act, avec le public de la Guadeloupe. Très nombreux aujourd'hui, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes donc pour la première fois en Guadeloupe. La francophonie et l'outre-mer sont indissociables. Césaire, Glissant, Tyrolien, Condé, Pépin, Fanon, tous ont largement contribué à l'existence et à l'expression d'une culture francophone mondiale. Nous parlerons donc de la littérature créole et de la place des Antilles dans le monde culturel avec de nombreux invités. Autour du premier vice-président du congrès, l'haïtien Lionel Trouillot, nous sommes avec Roger Thompson, Hector Poulet, Myrna Bolus et Steve Gadet. Nous parlerons du nouveau roman de Simone Schwarzbach, en avant-première, le nouveau volume du cycle antillais, initié avec son mari André Schwarzbach, sort début mai aux éditions du Seuil. Nous irons en Guyane avec son personnage. Et puis nous rendrons hommage à toutes les personnalités littéraires et politiques qui ont animé la francophonie et l'outre-mer. Marie-Claude Pernel publie un roman fleuve qui raconte la grande histoire des Antilles.
La librairie francophone, émission spéciale. Emmanuel Kérad.
Et comme d'habitude, quatre libraires sont avec nous ici en Guadeloupe et en multiplex à travers la francophonie. On accueille d'ailleurs cette semaine un libraire de la Guadeloupe. Bonjour Max Jazor.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien.
Voilà, vous pouvez applaudir. Max Jazor, vous êtes très connu ici, car vous avez une grande librairie, plusieurs points de vente aussi à travers l'île. Les librairies Jazor, ce sont des librairies généralistes ?
Librairie générale, exactement.
Voilà,
généralistes, livres scolaires, littérature générale et papeterie aussi. La librairie, en tout cas la librairie Jazor, c'est la fille en fait d'une maman enseignante et puis d'un papa cultivateur. Alors, ça va étonner tout le monde, mais mon père était un grand planteur d'igname.
D'accord.
Oui, je revois encore un cultivateur qui passait près de lui en regardant les 100 trous d'igname qu'il venait de fouiller et qui disait « Mais où sont des mots ? Vous êtes un démon !» Parce que avant de venir à la librairie le matin, ben, il sortait de son jardin.
Il allait, il faisait les deux.
Très, très d'accord, bien, tous les bois bien. De la Guadeloupe, etc. Voilà.
Bon, vous nous accompagnez tout au long de l'émission, ici avec le public qui est là, face à vous. Et en Suisse, c'est Dominique Bressou qui est libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. En Belgique, c'est Annick Dor qui est à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Bonjour à vous deux.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Annick, bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Et pour le Canada, c'est l'exigeant Jérémy Laniel qui est libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
En ce moment, Jérémy, au Canada, à seulement 3500 km d'ici, à Québec, environ 250 km de chez vous, il y a le Salon du Livre et nous serons en duplex tout à l'heure avec un écrivain surprise très populaire. Le pont entre la Guadeloupe et le Québec, c'est évidemment dans la librairie francophone et nulle part ailleurs. Bonjour Roger Thompson. Prenez un micro, Roger, sinon on ne vous entend pas.
Oui, il serait temps que j'y pense.
Comment allez-vous, Roger ?
Oui, très bien.
Vous êtes un auteur, poète, essayiste et ancien président de l'association du Congrès des écrivains de la Caraïbe. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Alors je suis très heureux de vous retrouver ici. Vous êtes un grand fidèle de la librairie francophone. Vous êtes un écrivain haïtien très apprécié par le public et par la critique. Vous êtes le premier vice-président de ce 5e congrès des écrivains de la Caraïbe organisé par la région Guadeloupe. Pour commencer, on vous a demandé de raconter votre arrivée ici en Guadeloupe. Faites-nous voyager, Lionel.
Bon, je vais essayer. Alors je dirais verre, voiture, la montagne fière observe, la mer jamais loin. Un parler qui traîne, le cri caché, soleil, touriste, attention, peuple.
Félicitations. Merci Lionel pour ce moment poétique. Comment vous êtes arrivé quand ?
Je suis arrivé il y a déjà 3 jours.
Oui.
Un peu à l'avance pour contribuer à préparer cet événement.
Quel rapport avez-vous avec l'île en général, avec l'insularité, avec la mer, avec tout ce qu'on voit dès qu'on arrive en Guadeloupe avec l'avion? On a la mangrove, on a ces bords de mer comme ça qui se dessinent, et puis Basse-Terre que l'on voit, Pointe-à-Pitre. Il y a tout un ensemble finalement d'univers, un ensemble de nature très différent.
Oui, mais personnellement, je considère la nature comme un cadre avec des ressemblances entre toutes ces îles qui constitue la Caraïbe, mais j'avoue que je préfère les gens aux arbres et aux paysages, donc ce qui m'a beaucoup Ce qui m'a beaucoup touché, c'est ce que justement nous partageons comme, comme histoire et comme révolte contre aussi, contre les crimes de l'histoire.
Ouais,
je pense que d'ailleurs, la thématique du congrès, c'est cela, c'est face à cette histoire qui souvent écrase, comment construire un discours de l'avenir, un discours du bonheur. Et nous pensons, moi je pense que ce discours du bonheur passe par un discours de la rébellion.
Voilà, sur cette musique d'Alliance K, les tambourkas de la Guadeloupe, Roger Thompson pour ce congrès des écrivains de la Caraïbe. Il y a de nombreux échanges, les pays, les régions de la Caraïbe ne se connaissent pas assez, Roger.
Oui, il faut partir de ce constat que les différents peuples, les différents pays de la Caraïbe, très longtemps se sont très peu connus ou sont restés méconnus les uns des autres. Et c'est l'objectif que s'est assigné l'Association des écrivains de la Caraïbe dans le domaine de la création littéraire, de rapprocher les auteurs, de rapprocher les œuvres, parce que l'espace Caraïbe est un espace multilingue où le français et le créole d'une part, mais aussi l'anglais, l'espagnol sont les bases d'appui d'une créativité très féconde.
Et dans votre recueil Estuaire, paru aux éditions québécoises Mémoire d'Encrier, vous écrivez « La mer est la grande route des nations ».
Oui, nous sommes un peuple de mer. L'histoire de nos sociétés est l'histoire de ces esclaves qui sont arrivés d'Afrique, transportés, mais il n'y a pas seulement le voyage sous contrainte qu'ont connu les Africains, il y a le voyage que font les Européens. Et le totem des voyageurs, c'est bien évidemment Christophe Colomb. Donc il y a toujours ce souci de la traversée, ce souci de rendre compte de la géographie des pays et de la psychologie des peuples.
Il y a aussi ce grand poème avec un troubadour d'Afrique de l'Ouest, Woy du Diali, c'est le titre de ce poème. Vous évoquez la notion de l'homme sans frontières. Qu'est-ce que c'est pour vous un homme sans frontières, Roger Thompson ?
L'homme sans frontières, c'est un homme auquel ne peut plus être assigné une identité fixe. Notre identité multiple ignore les frontières, les anciennes frontières qui jusqu'alors avaient prévalu dans la définition que les Européens donnaient de l'identité. La définition qui était donnée était une définition par exclusion. Nous ignorons les frontières dans la mesure où nous sommes sur les deux bords de chaque frontière, les frontières raciales, les frontières linguistiques, les frontières culturelles. Tout cela, en quelque sorte, nécessite désormais une nouvelle approche. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau concept de l'identité qui tienne compte non pas seulement des différences, mais des différences et des ressemblances.
Il y a certains géopolitologues qui disent que sans frontières, l'identité se dilue. L'homme aurait besoin d'une identité, d'une racine géographique. Ce n'est pas votre avis, ça ?
Ce n'est pas mon avis. L'aptitude de l'homme, c'est l'aptitude au voyage. Et le voyage est la figure de la connaissance de soi, de la connaissance du monde, de l'aptitude historique des hommes à se forger un destin de les circonstances qui réelles de la vie économique et de la vie sociale.
Quand on vit sur une île, on a un rapport différent avec les frontières. C'est qu'il n'y a pas de frontières terrestres. Ici en Guadeloupe, comme en Martinique, voilà. C'est quand on prend l'avion, finalement, quand on prend le bateau, que l'on prend conscience des frontières.
Oui, ce sont des frontières administratives, ce sont des frontières abstraites, mais dans la réalité, et dès le début, dès l'arrivée, dirons-nous, entre guillemets, de Christophe Colomb, il y a des va-et-vient incessants, et les esclaves, tout particulièrement, ont donné au voyage la ressource de la liberté, parce que ils pouvaient, chaque fois que possible, fuir la Guadeloupe, fuir une habitation de la Guadeloupe, trouver refuge à Marie-Galante ou à la Dominique. La notion de voyage, la notion de migration sont pour nous des notions positives.
Lionel Trouillot.
La notion de voyage, bien que ça soit quelque chose dans la représentation de la liberté, mais quand même, nous avons connu dans notre histoire des voyages qui nous ont été imposés. Et la mer a été pour nous un cimetière, pas forcément un cadeau. Je pense qu'il faut mettre des nuances dans ce genre de formulation. À partir du moment où on généralise, je ne sais pas si l'homme a pour aptitude de voyager, l'homme a peut-être pour aptitude de rester chez lui et de ne pas se faire emmerder par les autres, ni d'aller partir emmerder les autres. Alors, hein.
Bon. Simplement, rappelle-toi, sous la mer, il y a la possibilité de rentrer à la maison en marchant sous l'eau et sans se noyer.
Bon, on va revenir à la littérature, Max Jazor, ici en Guadeloupe, dans votre librairie. Il y a beaucoup de littérature créole, les livres créoles en créole se vendent beaucoup en Guadeloupe.
Alors la littérature créole, pour moi, se porte très bien, puisque j'ai en tête son démarrage. Il y avait exactement 3 bouquins dans la librairie de départ, 3 livres, pour lesquels il fallait quand même mener un sacré combat pour les imposer. Ça a été un travail de promotion important. Et aujourd'hui, lorsque je vois les librairies, les médiathèques, les auteurs, les éditeurs et tout ce matériel mis à la disposition de la pensée, je dis que c'est une fabuleuse réussite. Voilà.
Très bien, merci Max. On va partir au Canada tout de suite avec notre libraire Jérémy Laniel. Le Québec où la littérature créole est très représentée, très respectée d'ailleurs, Jérémy.
Oui, même si tout semble séparé, géographiquement, je le précise, la chaude littérature créole et la nordique littérature québécoise, ben pourtant, la littérature créole est bien installée au Québec, hein, avec comme porte-étendard Dany Laferrière. Cette littérature créole a vie à Montréal et au Québec comme un univers en soi, avec, je dirais, en son épicentre, hein, l'éditeur et poète René Saint-Éloi et sa maison d'édition Mémoire d'Encrier, un réel passeur littéraire qui, livre après livre, nous partage son amour d'une littérature vivante et métissée.
Exactement, les éditions Mémoire d'Encrier dont on parlait tout à l'heure avec Roger Thompson qui est édité par Mémoire d'Encrier. Lionel Trouillot, un mot sur votre dernier roman en date paru chez Actes Sud, Kanjaou, qui est un livre très fort sur le peuple haïtien qui vit sur une terre selon vous toujours occupée. Les Américains, les organisations internationales humanitaires, tout cela trouble l'identité de vos personnages et trouble l'identité des Haïtiens.
Leur identité, je ne sais pas, trouble leur réalité. Et la question est de se construire une individualité, une subjectivité dans un rapport positif avec sa communauté.
Kanjaou signifie la fête et le partage en Haïti ?
Oui, Kanjaou signifie la fête et le partage dans le parler populaire et dans la langue créole. Moi, j'ai utilisé ce mot parce qu'il me semble symboliser l'hypothèse communiste. Je ne parle pas du parti marxiste-léniniste, je parle de la grande hypothèse communiste.
Le partage et la fête, c'est l'esprit de cette librairie francophone spéciale ici en Guadeloupe. On va poursuivre en musique avec un artiste qui va jouer pour nous dans les conditions du direct. Il est là, juste à côté de nous, avec un plateau installé spécialement. Bonjour Dominique Coco. Approchez-vous de votre grand micro jaune que je vois d'ici.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes un artiste très connu dans les Antilles, un artiste complet, danse, théâtre, cinéma, musique. Sur votre dernier album, Dans la calebasse de mon île, vous avez collaboré avec Jocelyne Béroir de Cassave et Fred Day du groupe Soft. Et cet album, eh bien, c'est un hommage à Aimé Césaire et au cahier d'un retour au pays natal.
Oui, en fait, l'album n'est pas un hommage à Aimé Césaire.
C'est le titre de l'album.
C'est le titre de l'album, en fait. Bon, déjà, je dirais, ça fait intelligent, n'est-ce pas?
En tout cas, ça vous donne une place dans la librairie francophone.
Ah, il a lu Aimé Césaire. Mais ce sont les. Donc, c'était une façon, je trouvais une façon merveilleuse de dire au pays. Ouais. Et comme beaucoup d'auteurs de chansons, on se nourrit du travail des écrivains. Parce que je pense que quand on écrivait justement sur un talent supérieur, donc je me nourris de ça. Et puis tous les grands personnages qui ont cherché à magnifier le peuple noir m'intéressent aussi.
Et alors vous dites aussi qu'il y a des livres que l'on ne peut pas comprendre totalement d'un seul coup. Il faut du temps, il faut parfois les relire.
Mais c'est le cas justement du cahier, voilà quoi. Guy Tiroli a des poèmes beaucoup plus simples qui aussi parlent tout autant.
Exact.
C'est vrai que Césaire, c'est, je dirais, une haute technicité grammaticale, si je peux me permettre. Mais il s'en dégage toujours des phrases clés, quoi, qui marquent. On peut toujours capter un message centralisateur, quoi.
Alors avant de recevoir Simone Schwarzbar, voici une petite transition musicale créole interprétée par Dominique Coco, ici au Memorial Acts à Pointe-à-Pitre.
Dans la calebasse de mon île, la calebasse de mon île, bien bonjour, bien bonsoir, si l'on l'air ton chant la ça, j'y prends tout dix autres qu'un béret pas volé, même si des fois un tiers ta dentilette la ça, elle nous pas considéré qu'on en pays maudit béni. Gaba ou mal tête en bas soleil chaud, mais mon sauté qui en dit dans qu'est en nous. Dans la calebasse de mon île, on garçon là, met un bâtiment là, dans la calebasse de mon île. En compassion là, marin pêché là, qui drapeau pour symboliser nous. On fait bon histoire, on pitié. On manque nous qu'à vivre, n'ayons pas peur, allons enfants. Que tout dans la calebasse de mon île. Politicien là, avocat là, dans la calebasse de mon île. En compte tous ces tigènes là, qui viennent qui semblent là. Jou Kevin nous qui fait yon pour nous, aujourd'hui et moi. Sans fait colère et puis sans hypocrisie. Sans qui j'ai coulé, des et j'ai échappé les bois. Quand nous force nous la cap construit en pays maudit béni. Pays cabal mal tête en bas, soleil chaud. Mais mon sauté qui en dit dans tes en nous. Dans la calebasse de mon île. Intellectuel là et syndicaliste là, dans la calebasse de mon île. Maître maîtresse l'école là, docteur notaire, qui drapeau pour symboliser nous. On perd bon histoire, on cultive. On mange à nous qu'à vivre, n'ayons pas peur. Debout tous, debout dans la calebasse de mon île.
Dominique Coco, accompagné de Michel Mado au piano. On vous retrouvera tout à l'heure pour un autre titre, tous ensemble, ici à Pointe-à-Pitre pour cette émission spéciale.
La librairie francophone, émission spéciale. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Simone Schwarzbach.
Bonjour Emmanuel.
Je suis ravi de vous revoir ici sur votre île. Cette fois, vous poursuivez le cycle des romans antillais initiés avec votre époux disparu André Schwarzbach, qui s'était rendu célèbre à travers toute la francophonie pour son roman Le Dernier des Justes, prix Goncourt en 59. Après L'Ancêtre en solitude, vous publierez début mai Adieu Bogota aux éditions du Seuil. Il y avait des notes d'André, des écrits qui vous ont permis de raconter cette histoire?
Il y avait tout le travail qu'on avait fait, consigné dans des cahiers, dans des carnets et dans des notes manuscrites.
Vous avez accepté de nous en parler en avant-première, une exclusivité pour la librairie francophone. C'est un livre très attendu ici et en métropole. On ne va pas trop en dire, mais il y a deux femmes dans cette histoire qui se rencontrent dans un hospice et dont vous racontez la vie passée. Il y a Marie qui va écrire son parcours et Marie explique qu'aux Antilles, les fous entendent souvent trois voix. La voix nègre, la voix blanche et une troisième voix.
La troisième voix, c'est la voix qu'il faut trouver, qui est mixte et qui est quelquefois la voix blanche, qui se mélange justement et qui donne une voix nouvelle, qui est la nôtre, qui est ce mélange, qui est cette créolisation de l'univers que nous restituons d'ailleurs, noir, blanc, et puis le mélange qui est restitué.
On va écouter deux de nos libraires, Simone Schwarzbach, qui ont lu une partie de votre œuvre. On va partir en Belgique avec Annick Dor.
Oui. Alors c'est vrai que votre œuvre, elle est plus qualitative que quantitative, hein, ce qui fait sans doute que vous êtes connu des professionnels du livre, des gens du métier, mais peut-être un peu moins du grand public. En tout cas, c'est ce que je constate en Belgique. Alors en lisant vos livres, on plonge dans la vie antillaise quotidienne, hein, dans laquelle on perçoit aussi en filigrane les souffrances de l'esclavage. On découvre un imaginaire merveilleux aussi, fait de croyances traditionnelles créoles, de parfums, de couleurs de la Caraïbe. Et puis on perçoit aussi, et ça je trouvais ça formidable, c'est vraiment une ode à la vie et puis à la femme aussi, qui est vraiment une figure centrale de beaucoup de vos écrits.
Max Jazor, libraire en Guadeloupe, voulait dire un mot à Simone Schwarzbach sur son œuvre.
Oui, alors Simone, quand Simone a débarqué, elle a eu à affronter la critique dure d'une partie donc des Guadeloupéens qui voyaient son écriture comme une trahison, ouais. Une trahison par rapport à notre créole qui devait rester une langue secrète, que le blanc devait pas comprendre parce qu'on avait nos petits complots, etc. Enfin bref, et je revois encore Gracchus qui lui dit « Mais madame, pour qui écrivez-vous ? Vous avez écrit ce livre pour qui ?» Et tout, et le père Jason qui a ramassé la fille de Mme Brumont sous son aile, et puis pas question d'écraser sa Simone, et Simone est devenue, après ce travail-là, inscrite dans les écoles, ouais, et ouais. C'est d'ailleurs par les écoles, par l'étude des écoles que ça a été le grand succès, et aujourd'hui une œuvre majeure de notre littérature.
Un jour, votre personnage Marie prend le bateau pour aller en Guyane. Arrivé à Cayenne, on lui dit « C'est un bon pays pour nous autres négresses. C'est un pays où une fille intelligente et bien faite peut devenir une personne. Car tous les hommes qui sont ici ne sont rien chez eux. »
Bien évidemment, quand nous disons « ne sont rien », nous parlons de qui ? Nous parlons surtout des bagnards. Il y a donc beaucoup de bagnards qui balayent, qui sont la risée des enfants dans la rue. Et il y en a beaucoup aussi qui ont fait fortune, comme celui, justement, que l'héroïne Mariotte
va rencontrer. Va rencontrer. Mais alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Guyane, il y a beaucoup d'immigration. On vient de toutes parts, de tous horizons. Et c'est pour ça que votre personnage dit ça. C'est pour ça qu'à un moment, elle se dit, bah, ils ne sont rien parce qu'ils n'ont pas de racines ici. Donc c'est possible pour voilà. nous. Alors quand elle arrive comme ça en Guyane, elle va errer dans les rues de Cayenne. À Saint-Léon aussi, elle va aller là-bas, la ville de l'or. Il y a la prostitution, la violence, tout le monde est armé. Ces descriptions nous rappellent l'actualité en Guyane avec cette grève générale engendrée par les défaillances de la métropole et par l'insécurité. Quel regard portez-vous depuis la Guadeloupe sur ce qui se passe en Guyane, Simone?
Eh bien, ce qui se passe en Guyane s'est passé chez nous il y a quelque temps. Nous vivons les mêmes situations et depuis longtemps, si justement la métropole avait considéré les demandes, avait considéré les manquements faits chez nous et en Guyane, il n'y aurait pas... chaque fois... Quand on a des problèmes à résoudre avec la métropole, il faut vraiment en arriver aux extrêmes pour être écouté, pour être entendu. Mmh. C'est ce que démontre cette situation qui en Guyane. Et nous sommes de tout cœur en Guadeloupe avec les Guyanais.
Oui, je pense que le public est avec vous. Ici à Pointe-à-Pitre. Merci beaucoup Simone Schwarzbach. On va pas tout dire, hein, tout dévoiler d'Adieu Bogota parce qu'il sort début mai aux éditions du Seuil. C'est un livre que vous nous avez présenté en avant-première. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous restez bien sûr avec nous Simone. Merci.
Merci.
Voilà, Adieu Bogota donc aux éditions du Seuil en mai. Et de la Guadeloupe, on va partir en métropole avec le tout nouveau titre du chanteur Ours, fils d'Alain Souchon, pour la petite histoire intime, qui chante sur les rythmes presque créoles, influence peut-être de Laurent Voulzy. Bref, c'est une histoire de famille dans la librairie francophone.
Jamais su danser.
Le chanteur Ours avec Jamais su danser sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et ici en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre avec le public au Memorial Act pour cette émission spéciale. Toutes les semaines, vous le savez, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vous présentent leur coup de gueule et leur coup de cœur. Et on commence par un coup de gueule en Suisse, Dominique Bressou.
Oui, un coup de gueule contre les polars à la mode qui viennent du Grand Nord, entendez, d'Islande, de Norvège, et dans lesquels vous vous prenez déjà la tête, à, non pas à tenter de résoudre l'énigme, mais à retenir les noms des personnages, genre Sigurdur, Oli ou bien Eckelstenström. Et en fait, franchement, il y a déjà bien assez de très bons polars publiés dans les pays francophones. Par exemple, Le Dragon du Muvran de Woltenhauer, aux éditions Plaisir de lire, dont l'action se déroule dans les Alpes suisses.
Oui, c'est mieux que, évidemment, Millennium et toute la clique. Oui, bon, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est votre avis. Merci, Dominique. Annick Dor en Belgique, coup de gueule ou coup de cœur pour vous?
Alors, coup de cœur, Emmanuel, pour un album jeunesse que l'on doit à Clémence Sabag et Françoise Rogier et qui s'intitule Rose Cochon. Alors, je vous avais déjà parlé du travail d'illustration de la Belge Françoise Rogier qui nous offre chaque fois des petits bijoux graphiques. Alors, on retrouve ici encore sa patte, un dessin reconnaissable et un style très personnel. Alors, cette fois, on suit les aventures d'une petite fille qui veut adopter un animal. Alors, l'occasion pour les auteurs de détourner les contes de notre enfance et d'y adjoindre aussi des références picturales en forme de clin d'œil. De quoi amuser les enfants, mais aussi les adultes.
Rose Cochon, c'est aux éditions à pas de loup. Et au Canada, c'est la terreur Jérémy Laniel qui est avec nous pour un petit coup de cœur, Jérémy.
Vous me connaissez, coup de gueule sur un essai, La fin de l'homosexualité, le dernier guide d'Éric Duhem, c'est publié aux éditions de l'Homme. Le polémiste Éric Duhem ne donne jamais dans la dentelle, mais ici, là, vraiment, il repousse les limites de la démagogie en affirmant dans son nouvel essai que l'homosexualité, bien, c'est désormais totalement accepté, que toutes les batailles sont gagnées, donc que tout mouvement de solidarité, ça devient complètement futile. Si l'auteur s'en donne en cœur joie dans l'amalgame de toutes sortes, dans l'appel à l'autorité, plusieurs pourraient me dire que j'aurais même pas parlé d'un tel livre. Ce serait de lui donner beaucoup trop d'importance. Mais vous savez, moi, Emmanuel, je ne peux pas passer sous le silence ces livres aux arguments vulgaires, aux raisonnements fallacieux, ainsi qu'aux conclusions hâtives et complètement sans fondement.
Très bien, il est habillé pour l'hiver prochain, Éric Duhem. Merci, Jérémy. Merci. Oui, vous pouvez applaudir, mais enfin, le pauvre auteur. On va partir de Montréal, où vous êtes en ce moment, pour aller vers Québec. 250 km séparent les deux villes. En ce moment même se tient le Salon du Livre de Québec. Plus de 700 éditeurs sont présents sur cet événement. Et cette année, le président d'honneur est un écrivain que nous suivons pratiquement depuis ses débuts avec cet immense succès, La liste de mes envies, livre que nous avons contribué à révéler. Bonjour Grégoire Delacour.
Bonjour Emmanuel Queyrade, bonjour la Guadeloupe.
La Guadeloupe qui vous entend ici. Vous êtes entouré de monde, vous, à Québec, Grégoire? Comment ça se passe, l'ambiance?
Oui, il y a énormément de monde, à tel point que quand je suis arrivé, tout était blanc de neige et le nombre de gens ici fait fondre la neige et je crois que le printemps sera là dimanche.
Ah d'accord, eh bien, écoutez, nous tout est jaune de soleil ici, donc on doit avoir à peu près 30 degrés d'écart. Vous êtes l'un des exemples de ces passerelles francophones qui permettent à des auteurs de percer dans un autre pays que le leur avec ce point commun, la langue française finalement, tout est là.
Oui, en fait, il y a plusieurs langues françaises, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a la langue ici, il y a la langue de France, il y a la langue de Belgique, la langue d'Afrique. Et toutes ces langues sont réunies ici et font danser les mots. Et c'est extraordinaire dans une période où c'est un petit peu le chaos autour de nous.
Oui, lors de votre discours d'ailleurs, discours d'inauguration mercredi, Grégoire Delacour, vous avez dit « Les mots sont le plus grand patrimoine de l'humanité. Les livres sont un rempart contre la bêtise et la barbarie ».
Absolument, et les mots, ils sont plus beaux, ils sont gratuits. Et dans les salons internationaux du livre comme ici, où il y a tellement de gens passionnés, il nous appartient à nous, aux lecteurs, aux auteurs, à tout le monde, d'écrire l'histoire qu'on veut vivre, d'écrire une tendresse humaine face à tout ce chaos et encore à ces histoires qui se passent à Stockholm tout à fait récemment, il y a quelques heures. Et ici, on l'a accueilli avec effroi et on reste solidaire avec des mots qui repoussent comme ça la méchanceté et la bêtise qui gagnent beaucoup, beaucoup trop de terrain.
Et qu'est-ce que ça vous fait, Grégoire, d'être président d'honneur du Salon du Livre de Québec, là-bas où vous êtes en ce moment ?
Ah bah, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais c'est un immense honneur. Il y a quelques années à Montréal, le ministre de la Culture était venu me saluer. Il n'avait pas de garde du corps, il n'avait pas de photographe, il avait lu le livre. Il faisait la queue comme tout le monde, juste pour me dire merci d'être venu. Là, j'étais à côté du ministre de la Culture le soir de l'ouverture et je lui ai dit, s'il vous plaît, appelez-moi monsieur le président, ce qu'il a fait. Et donc, il y a une gentillesse et une humanité ici qui est formidable et qui fait vraiment, vraiment du bien. Donc moi, je suis ravi d'être le passeur de tous ces mots entre tout le monde pour embellir au moins les jours qui viennent jusqu'à l'arrivée ici du printemps qui leur manque aux Québécois. Ils sont épuisés de l'hiver. Là.
C'est vrai, on comprend d'ici, depuis la Guadeloupe. Écoutez Grégoire Delacour, le public qui vous salue depuis Pointe-à-Pitre. Merci Grégoire.
Merci à vous et profitez du beau soleil.
Merci. Votre dernier roman, Danser au bord de l'abîme, est paru chez Lattès et votre entretien dans la librairie francophone sur ce roman est à retrouver en podcast sur notre site internet. Merci beaucoup Grégoire pour ce pont entre la Guadeloupe et le Québec, avec les moyens techniques d'ailleurs de Radio-Canada.
La librairie francophone à Pointe-à-Pitre, émission spéciale Emmanuel Guérade.
Et bonjour Marie-Claude Pernel.
Bonjour.
Vous
Emmanuel.
Êtes une auteure de la Guadeloupe. Vous venez de publier votre deuxième roman, Filature, aux éditions Ibis Rouge, une maison d'édition guyanaise d'ailleurs. Oui. C'est un roman fleuve qui convoque tous les grands personnages littéraires et politiques, tous ceux qui ont eu un rôle dans les départements d'outre-mer et ceux qui ont lancé aussi la francophonie. Tout le monde est là.
Enfin, la francophonie, mais surtout la négritude.
Oui, déjà,
c'est un roman de. Enfin, c'est le prétexte, c'est un polar, c'est-à-dire que c'est une agent secret, Nancy, qui est élevée dans un orphelinat et qui va découvrir sa part de négritude, puisqu'elle est métisse, elle ne connaît pas sa mère africaine. Et par contre, son père dirige un grand réseau d'agents secrets totalement anticommuniste et elle pense en prendre la relève. Mais elle va tomber amoureuse d'un communiste et elle va être obsédée par Albert Béville, alias Paul Niger, ce qui va lui permettre de traverser 1946, c'est-à-dire et on va en 1948, le centenaire de l'abolition de l'esclavage, le premier congrès des artistes et écrivains du monde noir, le deuxième, la rencontre du colloque sur la loi d'assimilation en Guadeloupe en 59. Et donc on parcourt toute... Il paraît qu'il y a une amie qui a compté, il y a 60... personnalité.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que vous convoquez tout le monde. On retrouve tout le monde. C'est très émouvant d'ailleurs parce que vous les faites revivre ces personnages-là. On croise Césaire, Senghor, Damas, Guy Tyrolien d'ailleurs dont on célèbre ici en Guadeloupe le 100e anniversaire de sa naissance, Victor Sablé, Frantz Fanon. Ils sont tous là.
Oui, Glissant, les Américains Richard White. Et notre génération, il faut avouer, on ne nous a pas appris cette histoire. Voilà, je demande juste à la jeunesse de pouvoir les rencontrer. Et ce roman, il est modeste, mais voilà, c'est ce qu'il voulait, ce que je voulais faire en tout cas.
Il est modeste, en tout cas, il est très touffu, à la fois très documenté. Césaire, vous le citez souvent, hein, vous citez évidemment le cahier d'un retour au pays natal, ce qui va plaire à Dominique Coco, qui va jouer tout à l'heure. Mais Césaire est présenté dans votre roman comme un dangereux communiste. Pourquoi fait-il peur et à qui fait-il peur ?
Ben, c'est qu'au début, il faisait peur. Et moi, personnellement, comme tout le monde, j'ai étudié pour le cahier au retour pour le natal, mais je n'avais pas étudié les discours parlementaires de Aimé Césaire. Il faut aller les voir, c'est aussi de la littérature.
Alors justement, on va en lire un extrait avec Lionel Trouillot qui a accepté, qui va lire justement un extrait de Césaire qui s'exprime à l'Assemblée nationale avec une musique créole.
Permettez-moi de vous donner cet avertissement. Lorsque, sous couleur d'assimilation et sous prétexte d'uniformisation, vous aurez accumulé dans ces territoires injustice sur injustice, lorsqu'il sera évident qu'à la place d'une véritable assimilation, vous entendez ne leur offrir qu'une caricature, une parodie d'assimilation, alors vous susciterez dans ces pays une immense rancœur. Et voici ce qui se produira. Vous aurez fait naître dans le cœur des Martiniquais, des Réunionnais, des Guadeloupéens, un sentiment nouveau, un sentiment qu'ils ne connaissaient pas et dont vous porterez la responsabilité devant l'histoire. Un sentiment dont les conséquences sont imprévisibles. Vous aurez fait naître chez ces hommes le sentiment national martiniquais, guadeloupéen ou réunionnais.
Merci Lionel Truyot pour cette lecture. Deux libraires ont lu votre roman, Marie-Claude Pernel, avec Jérémy Laniel et Dominique Bressoux. Vous préférez partir d'abord en Suisse ou au Canada ?
Suisse.
La Suisse. Allez, Dominique Bressoux.
Oui, alors pour un maniaque de l'orthographe et de la syntaxe, il serait certainement préférable d'éviter ce livre. Mais ça serait vraiment dommage, parce que j'ai grâce à lui pénétré dans un monde inconnu, celui de la manipulation politique à très grande échelle, par des hommes qui se légitiment eux-mêmes jusque dans la trahison. Des hommes et des femmes. Et le personnage central de Nancy, qui est naïve, entêtée, courageuse, mais qui se pose jamais les bonnes questions, m'a profondément touchée.
Oui, quelques erreurs, des petites coquilles, oui, c'est vrai, dans le livre. Bon, Jérémy pour le Canada, vous êtes séduit, vous, par ce roman?
Oui, étonnant bouquin que celui de Pernel, c'est à la fois politique et littéraire, avec des détours historiques. Mais Pernel relève le défi de ne pas tomber en amour avec son sujet. Elle parvient à laisser toute la place qu'il se doit à la littérature elle-même, qui s'installe au fil du récit et de cette fascination, bien sûr, pour Béville. Puis sans être une négritude pour les nuls, Pernel parvient tout de même à nous livrer un pan intéressant de l'histoire de la littérature noire. C'est vraiment, vraiment fascinant.
Fascinant, un livre effectivement fascinant. Il y a aussi cet homme, vous l'avez cité, Marie-Claude, tout à l'heure, Albert Béville, sur lequel Nancy va faire une enquête. Il a une double personnalité, c'est l'écrivain Paul Niger. Alors Paul Niger, c'est d'abord Albert Béville, un Guadeloupéen revenu à Paris, administrateur au ministère des Colonies, qui aurait agi aussi en rebelle, en cachette, pour dénoncer des choses.
Oui, c'est moi, j'étais très indigné par ça, peut-être sa double face. Au début, je voulais même faire une autobiographie, mais j'ai vu effectivement qu'il était dans tous les événements, mais d'une modestie. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait là. Et en même temps, il est toujours là. Il est toujours là dans l'organisation, il est toujours là pour publier, il est toujours là pour faire circuler des idées. Et c'est pour ça que j'ai été très attirée et que Nancy, je l'ai fait totalement obsédée par ce personnage.
Sa vie est un roman.
Paul
roman, Niger, oui. C'est incroyable. Oui, vous racontez des choses absolument incroyables.
Et puis il est mort malheureusement dans l'avion de 1962 avec Cataillé.
Oui, c'est-à-dire qu'il échappe en plus au contrôle douanier pour prendre un avion, arriver en Guadeloupe et l'avion se crache.
Et c'est intéressant de voir le poème qu'il avait fait juste avant, on a l'impression que c'était prémonitoire.
Oui, complètement. Alors Nancy va côtoyer Niger, Césaire, Fanon et les autres. Elle est convaincue, contrairement à son frère d'ailleurs, que l'art ne peut pas être un vecteur pour véhiculer des idées politiques. Puisque l'on est au Memorial Act, le centre de mémoire de la traite et de l'esclavage, terminons avec ce livre que le frère de Nancy passionne. C'est l'anthologie publiée par Senghor dans le cadre du centenaire de l'abolition de l'esclavage. Là aussi, c'est la démonstration d'une littérature politique.
Oui, mais d'ailleurs, il y a eu plusieurs anthologies d'Arras aussi, et il y a Nancy Coran qui en avait fait aussi, et c'est intéressant de voir ce besoin de faire de l'inventaire de ce qui est pour marquer une identité, une culture.
Merci beaucoup, Marie-Claude Pernel. Vous pouvez l'applaudir. Marie-Claude Pernel, avec Filature, paru aux éditions Ibis Rouge, maison d'édition de Guyane, distribuée dans toute la francophonie. Merci beaucoup. À suivre un plateau avec trois nouveaux auteurs de la Guadeloupe, nous allons parler de la place des Antilles et de l'Outre-mer dans le monde culturel francophone avec Steve Gadet, Myrna Bolus et Hector Poulet. De la musique à présent ici au Memorial Act avec Dominique Coco accompagné au piano par Michel Mado qui interprète Banwe Opal pour la librairie francophone. Oui, je l'ai très mal prononcé. Dites-le Dominique. Dites-le le titre s'il vous plaît.
Banwe Opal.
Banwe Opal.
Qui veut dire aide-moi.
Aide-moi, bah, ça tombe bien. Et on est dans les conditions du direct ici pour la librairie francophone avec le public de la Guadeloupe qui vous applaudit. Dominique Coco.
Papa, pardon, t'as dérangé encore.
mais ben moins on parle. Mais ben moins on parle. Mais ben moins on
Dominique Coco, en public, sur le plateau de la librairie francophone, ici au Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre, avec Bamouin Opal, ici sur Récit Radio. C'est mieux ou pas?
Oui,
c'est mieux. Aide-moi donc la traduction en français sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone en Guadeloupe, émission spéciale Emmanuel Kérad.
Émission spéciale en Guadeloupe avec de nombreux auteurs en plateau ici au Mémorial Acte à l'occasion du 5e congrès des écrivains de la Caraïbe. Nous allons parler à présent de la place des Antilles et plus largement de l'outre-mer dans le monde culturel francophone avec cette actualité brûlante en Guyane à 1650 km d'ici. Les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de la Réunion devraient être considérées comme toutes les régions de France. Pourtant, le clivage est ici bien présent. Faire une différence avec les régions de l'outre-mer, c'est cautionner la division et le racisme en métropole. Si les Français de métropole prenaient la mesure des richesses humaines de ces territoires, si nous écrivions une nouvelle page de l'histoire, l'exclusion, la peur de l'autre et le racisme seraient des fléaux marginaux. Le Canada avec les territoires inoux, la France avec les territoires d'outre-mer. Les rapports doivent changer. Quand on écoute la poétesse inoue Joséphine Bacon ou que l'on lit la poésie créole d'Édouard Glissant, tout est là pour que les consciences se réveillent. Bonjour Steve Gadet.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes universitaire, essayiste, auteur de romans et de nouvelles. J'ai l'impression que vous avez déjà envie de parler, vous avez déjà envie de dire quelque chose.
Je vous écoute avec gourmandise.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez publié des livres sur les cultures urbaines dans la Caraïbe. Vous êtes né en région parisienne, de parents guadeloupéens. Quel est le rôle culturel des Antilles pour vous dans l'espace francophone?
Déjà, je dirais simplement, la culture est là pour refléter l'âme d'un peuple. Elle dit comment un peuple vibre, comment est-ce qu'un peuple se ressent, comment est-ce qu'il se projette, quel passé il charroie avec lui. Déjà, je vois cette première chose-là. Et puis nous qui sommes des créateurs, je parle en tant que rappeur, je parle en tant qu'écrivain, nous, l'un de nos premiers rôles, c'est de rendre compte de ce qui se passe déjà en nous, à l'intérieur, au fond de nous, et rendre compte aussi de ce qui se passe chez nos gens, dans nos rues, dans les endroits où nos gens vivent, quoi.
À côté de vous, il y a Hector Poulet. Bonjour Hector.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes auteur et enseignant de la langue créole. Vous avez publié « À Bobo, quatre légendes inédites des Antilles » chez Caraïbes Éditions. C'est une autre façon de transmettre la tradition et la culture antillaise, de raconter les légendes?
Oui, c'est une façon, entre autres, parce que moi je ne suis pas un véritable écrivain, je suis un chercheur plutôt, et je m'intéresse à l'identité antillaise. Donc oui, j'ai essayé de voir si nous avions nous aussi nos héros, plutôt que de prendre toujours les héros de l'extérieur. Donc nos héros sont là, ils sont légendaires, ils peuvent s'appeler Télumé ou Solitude, ils sont tous là.
Mais alors c'est vrai que les légendes, les mythes, les croyances traditionnelles, ce sont des histoires universelles. Vous évoquez dans votre introduction les légendes gréco-latines que l'on connaît tous et qui, évidemment, ont fait rêver plein d'adolescents, plein de gamins.
Mais oui, et puis c'est pas par hasard que je m'appelle Hector, que ma fille s'appelle Nausicaa, que ma sœur s'appelle Hélène.
Ah oui. Donc, oui.
Donc c'est vrai que nous sommes nourris de cette culture gréco-latine, qui après s'est un peu ridiculisée quand il y a eu la négritude.
Pourquoi ridiculisée?
Mais parce qu'on nous a appelés des nègres gréco-latins. Et les nègres gréco-latins, c'était des nègres qui avaient grandi à l'ombre de la culture gréco-latine.
Ouais.
Alors, donc, ils n'étaient pas du tout des vrais nègres.
À côté de vous, il y a Myrna Bolus qui vous écoute attentivement. Bonjour Myrna.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes une grande militante de la langue et de la culture créole. Les langues régionales transmettent toujours une culture aux enfants, à l'école notamment, quand il y a l'apprentissage de la langue. Mais que peuvent-elles générer en termes d'éducation ? À quoi elles servent exactement ?
Alors, j'aurais envie de dire véritablement de nous enraciner, en tout cas enraciner notre jeunesse dans ce pays, parce que je suis d'accord sur un point. Oui, la mer, c'est merveilleux, mais la terre aussi, forcément, nourricière. On en a besoin et ici, on se rend compte d'une chose, nous avons deux langues. D'accord, le français, le créole, et à l'école, évidemment, c'est le français qui est, ma foi, imposé. De fait, la langue française, c'est celle qui est étudiée, pas la langue créole. Pourtant, nous fonctionnons constamment, et vous avez pu le remarquer, hein, nous avons pris la parole dès le départ, et c'était en créole.
Quand donc, on a fait les essais micro,
oui, voilà. Je m'en souviens. Donc, vous voyez bien que cette langue, elle est là. On a beau penser que les enfants n'entendent pas la langue, elle est là, elle est chez les enseignants.
Mais sauf que la langue française, c'est la langue commune. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de repli identitaire avec la langue régionale ? Alors, c'est valable pour toutes les langues régionales du monde, ça.
Je vous dirais non.
Oui, évidemment.
Évidemment.
Bien sûr.
Car pour moi, toutes les langues sont porteuses d'ouverture. Donc forcément, quand on a cette langue créole, j'ai envie de dire à côté de la langue française, on est forcément plus riche que celui qui n'a pas cette langue créole.
Steve Gadet, est-ce que vous ne pensez pas finalement que quand on écrit dans une langue régionale, je parle de toutes les langues régionales, hein, on ne va pas parler que du créole parce qu'on est diffusé dans le monde entier, est-ce que ce n'est pas se couper d'une grande majorité de lecteurs par exemple ?
Les écrivains comme nous de la Caraïbe, on est souvent dans cette dualité. Après, ça dépend pour qui on veut parler. Les militants qui ont choisi à un moment donné d'écrire en créole, merci parce qu'aujourd'hui, leurs livres sont utilisés pour éduquer nos enfants et les éveiller à notre langue. On se coupe, c'est un choix. Mais par contre, nous, on a la possibilité de voyager dans les deux langues. Raphaël Confiant écrit dans les deux langues. Moi, j'écris dans les deux langues. Donc non, c'est un choix. Ben tiens, je veux parler aux francophones. Si j'écris qu'en créole, ben tiens, je veux parler aux créolophones.
Bon. Et après, on traduit.
Pourquoi pas? Voilà, exactement. comme une autre langue.
Lionel me regarde. Mais oui.
je vois les langues. Pour moi, les langues sont des fenêtres.
Hector Poulet, vous êtes d'accord avec Steve Gadet?
Absolument, et j'irai même plus loin. Je dirais que, au point de vue neurolinguistique, de passer d'une langue à l'autre, ça rend beaucoup plus intelligent.
Bon, merci beaucoup. On va donner la parole au public. On ne fait jamais ça. Est-ce que vous avez une question ou quelque chose à dire? Je peux venir vers vous. Donc, qui veut intervenir? Je vais prendre juste mon casque sans fil et venir vers vous. Hop. Allez-y. Bonjour, madame. Quel est votre prénom?
Bonjour. Je suis Marie-Hélène Léautin. Je viens de Martinique. J'ai été invitée par le Memorial Act. Je suis très heureuse d'être ici. Je retrouve Hector Poulet, Lionel Trouillot. Donc, je tenais à ce que la Martinique soit présente, simplement. Et je vous félicite pour ce congrès des écrivains de la Caraïbe. Nous sommes bilingues et c'est notre richesse. Nous le savons dans la Caraïbe. Donc, bravo pour inviter donc, tant de pays de la Caraïbe. Merci.
Merci à vous. On salue la Martinique, bien sûr. Martinique, île voisine d'ici. Oui, madame, bonjour. Quel est votre prénom? Oui.
Bon, je suis Delia Blanco. Je viens de la République dominicaine. Dans tout ce qui vient d'être dit, ce qui est extrêmement important, c'est que c'est la Caraïbe aujourd'hui qui accueille cette urgence, justement, du multilinguisme et cette urgence de véhiculer nos littératures dans ce multilinguisme-là. Et je tiens à dire quelque chose de très important, puisque je suis aussi d'origine basque. Le créole a, dans sa matrice, une complicité avec un ensemble de créoles de toute une région. Et le créole ne se voit pas du tout comme une langue refermée sur elle-même, mais ouverte sur son monde.
Très bien, merci beaucoup, madame. Oui, un petit mot, très vite. Quel est votre prénom ?
Daniel, une question, comment décoloniser les esprits ?
Très bien, on n'a pas une heure devant nous, ça ne va pas être possible. je vous interdis de répondre. On n'a pas le temps, c'est pas que je ne veux pas aborder le sujet, mais on fera un sujet. Madame, un dernier, hop, et puis c'est terminé parce que vraiment, on est un peu en retard.
Honneur et respect, je suis Maryse Roumanoff, j'écris déjà deux ouvrages en créole. Alors, comme c'est le centenaire de la naissance de Guy Tirolien, je vais dire quelques mots. Tes paroles, dans la clarté de la joie, nous réchauffent. Nous voici à ton écoute, Guy Tyrolien. Tu guettes l'arôme et la saveur des mots dans les virages du langage.
Merci. Merci, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup, madame. Allez, on va terminer avec Lionel Trouillot. Je vais retourner sur le plateau, descendre ces escaliers rouges avec cet amphithéâtre rouge magnifique. Et Lionel va terminer justement avec un petit poème.
Sur une idée d'ailleurs de Marie-Bénédicte Loz. Et je termine avec pratiquement les derniers mots du livre. Ça s'appelle « Cité perdue ». Aux passants, nous dirons « Assieds-toi à ma table. Raconte-nous ton prénom. Le cœur n'a pas de titre, n'a pas de clan. Son nom propre est « Je t'aime ». Voilà.
Merci beaucoup. Merci la Guadeloupe. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission ou presque. Merci au public. On a été ravis vraiment. Toutes les infos sur nos invités sont à retrouver sur notre site internet, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter cette émission spéciale. Quel plaisir d'être avec vous. Faites-vous entendre une dernière fois. Merci beaucoup.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Et avant de conclure, un clin d'œil à un groupe mythique de la Guadeloupe nommé les Vikings de la Guadeloupe dans la librairie francophone. Viking de la Guadeloupe avec Gadé Douvan, titre phare que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet et sur les plateformes légales d'écoute en ligne. Et c'est la fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Un grand merci à Guadeloupe Première pour les moyens techniques et à la région Guadeloupe et à son président Harry Chalus avec la pétillante Dominique Hubert qui ont tous rendu cette émission possible avec une volonté et un accueil formidable. Merci beaucoup. À la réalisation ici à Pointe-à-Pitre, Teddy Deloire avec Serge Gandon à Paris. À la rédaction ici en Guadeloupe, Jean-Philippe Véret avec à Paris Christophe Magère et Marie-Louise Beau. En France, Martine Béguin-Follier et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. À la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio francophone. Nous serons en studio avec entre autres Gilles Leroy. Bonne semaine, bon week-end à vous.